Et c'est avec plaisir qu'on le retrouve une fois de plus cette saison dans l'émission Terminus. Olivier Beauregard, bonjour.
Un plaisir partagé, mon ami. J'avais bien hâte de reprendre ça, ces chroniques-là.
Passez un bel été sportif. As-tu regardé beaucoup de sport, les Olympiques, tout ça?
À vrai dire, j'ai regardé les Jeux Olympiques, mais j'ai quand même beaucoup décroché. J'ai vraiment pris le temps de me détacher un peu du sport pendant, surtout le mois de juillet, là, d'essayer de décrocher puis de vivre autre chose dans ma vie. Mais non, écoute, ça a été plus fort que moi, les Jeux Olympiques de Paris, qui ont été, honnêtement, une des plus belles cérémonies d'ouverture que j'ai jamais vues de ma vie. Les cérémonies de Paris avec le retour de Céline Dion, etc., là, ça a été fantastique.
Et la ville qui était en vedette. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Oui, les compétitions sportives, les résultats, tout ça. Mais de mettre la ville en beauté comme ça dans ces compétitions-là, moi, ça me dépassait. Le volleyball de plage avec la Tour Eiffel en arrière-plan, là, je pense que j'en reviendrai pas.
Ouais. Incroyable. Ça a donné le goût, je pense, à pas mal de gens de voyager à Paris dans les prochaines années.
Je pense que oui. Revenons au sport. Maintenant que ta pause estivale est terminée, Olivier, parlons tout d'abord de hockey et pour commencer, du Canadien de Montréal.
Oui, absolument, parce que là, les camps d'entraînement là, débutent, là, ils ont débuté en fait les camps des recrues. Là, les recrues ont quitté cette semaine vers les différentes équipes de la Ligue nationale de hockey pour débuter le camp. Je regarde beaucoup ce qui se passe dans notre course, c'est-à-dire chez les Sénateurs, chez le Canadien de Montréal. Puis chez le Canadien, c'est intéressant parce que c'est une année, je te dirais, oui, une année de changement, même si je te dirais que la formation se ressemble énormément. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bons coups du Canadien au courant des dernières années. Parlons du dernier repêchage. Ivan, qui s'amène avec l'équipe de Manov, avec l'équipe du Canadien. Écoute, ce gars-là, en ce moment, c'est le talk of the town à Montréal. On a hâte de le voir. Oui, il va disputer une saison en KHL cette année. Il ne sera pas avec le Canadien, mm-hmm. mais tout le monde a hâte de le voir et porter l'uniforme du Canadien. C'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est un gars qui a eu du ton. Pourrait devenir un joueur prolifique dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, on dit ça à chaque repêchage, mais dans son cas, j'ai regardé quelques clips, j'ai regardé un peu ce qu'il était capable de faire, puis honnêtement, je suis pas mal excité de le voir jouer sur les patinoires de la Ligue nationale éventuellement. Mais le Canadien a aussi fait l'acquisition d'un certain Patrick Laine au courant des dernières semaines. Je suis pas mal certain que les auditeurs qui nous écoutent ont tous entendu ça et ont suivi ça avec grand intérêt. Moi, je trouve ça intéressant que le Canadien ait cherché un joueur de la trempe de Patrick Laine. Écoute, ce gars-là, c'est pas compliqué, là. C'est un marqueur naturel, c'est un gros, gros bonhomme. C'est ce que Montréal a toujours voulu. Un très, très gros gabarit, un gars qui est capable de marquer des filets de tous les endroits sur la patinoire. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il joint à un noyau qui est beaucoup plus jeune qu'il a connu par le passé, soit avec les Jets de Winnipeg ou avec Columbus. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le cas de Patrick Laine, c'est que si on est capable de cimenter ce gars-là, cimenter ses pieds dans la métropole à Montréal, ben peut-être que Patrick Laine deviendra un grand favori de la foule parce que lui, il a tous les outils dans son coffre. C'est maintenant de voir s'il est prêt à travailler. Mm-hmm. Et ça a toujours été ça un peu sa lacune, surtout dans les dernières années. Ça a été plus difficile ces saisons. On sait qu'il a connu un petit peu de déboire à l'extérieur de la glace. Mais pour l'instant, cette acquisition-là pour le Canadien, ça fait en sorte qu'ils ont une équipe sur papier, en tout cas, pas mal intéressante. Je regardais également les points de presse aujourd'hui. Il y a Lane Hodgson, le jeune défenseur qui avait donné ses premiers coups de patin avec le Canadien en fin de saison. Ce gars-là va être à suivre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tous les outils également pour évoluer dans la Ligue nationale dès cette année. Alors, c'est un camp des recrues qui s'annonce très important pour le Canadien, mais également pour les partisans, c'est excitant. Parce que tu as une équipe sur papier là, qui peut causer des surprises. Je te dis pas que l'équipe va lever la Coupe Stanley cette année. Je te dis par contre que c'est une équipe qui pourrait aspirer à faire les séries éliminatoires. Puis à Montréal, c'est toujours la grosse question. On va-t-il être capable de faire les séries? Ben, je trouve que Montréal, dans l'organigramme de l'équipe présentement, puis de la façon dont cette équipe-là est sur papier, c'est une équipe qui pourrait être dangereuse à certains niveaux. Évidemment qu'il y a des questionnements, puis ça, on en reparlera au fil de la saison, mais ça reste une très bonne équipe. Alors, non, je pense que le Canadien, c'est une des années les plus excitantes depuis longtemps pour les partisans, je crois. Ouais, au niveau du camp des recrues, il y a tellement de bons joueurs, de jeunes recrues qui s'amènent avec cette équipe-là. On a hâte de voir ce que Patrick Laine, évidemment, va faire. On a hâte de voir si Lane Hodgson va être de la formation. Mais il y a des gars comme Logan Mailloux également qui poussent pour venir dans la Ligue nationale. On a hâte de voir où est rendu le jeu de Joshua Roy. Ce gars-là, il n'y a pas si longtemps évolué dans la Ligue junior majeure du Québec. Il est rendu avec les Canadiens. Là. Il a joué la saison dernière. On veut voir où il est rendu dans son développement. L'émergence de Kaden Gooley, qui est à la défense également, qui est probablement le futur capitaine de cette équipe-là après Nick Suzuki. En tout cas, là, je veux pas me prononcer trop longtemps, mais c'est un leader assuré et c'est un joueur très important. Alors, tu sais, on a hâte de voir où le Canadien va se situer. Mais on va commencer par un camp. On va voir ce que ça va donner. On va s'en reparler dans les prochaines semaines. Mais chose certaine, moi, je suis. Ça fait longtemps que j'ai pas été, disons, encouragé comme ça par la formation que le Canadien peut avoir sur papier quand la rondelle va tomber au mois d'octobre.
Bon, ben merveilleux. Est-ce que chez les Sénateurs, tu es aussi optimiste pour la saison qui s'annonce?
Hey, écoute, je te dirais même plus, mais wow. Pas pour les mêmes raisons. Okay. Pas pour les mêmes raisons. Parce que les Sénateurs, sur papier, c'est pas une équipe qui a changé énormément au niveau de leur alignement. Oui, il y a eu l'acquisition de David Perron, qui est un gagnant de la Coupe Stanley, un Québécois, puis ça, je trouve ça hyper intéressant. Il y a Ullmark également, là, qui arrive de Boston, lui, le gardien de but, qui est un gardien numéro un dans la Ligue nationale, qui voulait avoir un poste de gardien numéro un. Tu sais, c'était pas compliqué, là, à Boston, on jouait entre lui puis Swayman, mais les deux pouvaient occuper le poste de gardien numéro un, il y avait tous les talents. Maintenant, c'est de voir si Ullmark, avec la formation d'Ottawa, va être capable, justement, de cimenter, dans le fond, ce rôle-là, de gardien numéro un, parce qu'à Ottawa, c'est ça la grande question. Est-ce qu'on est capable d'avoir finalement un gardien de but digne de ce nom, un gardien de but numéro un? Ben, je pense que l'acquisition d'Ullmark pourrait être la solution pour les Sénateurs. Par contre, moi, ce qui m'a le plus impressionné, là, puis je le sais, j'en ai parlé souvent, mais depuis l'arrivée de Michael Adlauer, le nouveau propriétaire, il a toujours dit, lui, qu'il voulait se rapprocher de la population francophone, la population de Gatineau. Eh bien, écoute, on a annoncé de grandes nouvelles cet été, et je ne sais pas s'il y a des journalistes qui ont couvert le beat du Canadien, pas du Canadien, mais des Sénateurs qui nous écoutent à l'heure actuelle, mais quand on a annoncé l'embauche d'un gars comme Sylvain Saint-Laurent du quotidien Le Droit, et là, son nom m'échappe, là, mais Ian, qui travaillait également dans le monde du sport, son nom de famille m'échappe, là, c'est malheureux, mais ces deux-là se sont joints aux Sénateurs au courant de l'été, on a annoncé leur embauche comme directeur des communications de l'équipe. Non seulement tu as un anglophone qui vient des réseaux comme TSN, etc., mais tu as un Sylvain Saint-Laurent qui a travaillé à RDS, qui a travaillé au Journal Le Droit, qui a été chef des sports au Journal Le Droit, qui a couvert les Sénateurs pendant plus de 10 ans. Puis ce gars-là s'amène avec le département des communications des Sénateurs d'Ottawa. C'est un francophone pur. Écoute, c'est ça que ça prenait pour les Sénateurs. Ça prenait ça depuis des années. C'est revendiqué depuis des années, non seulement par les partisans, mais également par les journalistes qui couvrent cette équipe-là. Et là, tu regarderas les réseaux sociaux des Sénateurs d'Ottawa, Sébastien, depuis, je te dirais, la mi-juillet, le début août. C'est que des publications bilingues. C'est quoi qu'on attendait? C'est fait, là. On peut enfin avoir du contenu francophone chez les Sénateurs d'Ottawa. On dirait qu'enfin, les Sénateurs viennent de comprendre le marché dans lequel ils évoluent. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ça va donner vraiment des lettres de noblesse aux Sénateurs. Ça va aller chercher une banque de partisans qui n'étaient pas là avant. Ce sont des embauches très importantes. Tu sais, aux yeux de tout le monde, là, pas de l'air de grand-chose. Mais la réalité, c'est que ces embauches-là, de des gars comme ça, là, c'est tellement important pour une organisation, pour la structure organisationnelle d'une équipe sportive. Ça va juste solidifier un peu ce qu'on est en train de ce qu'on veut bâtir. Et je te dirais même que, tu sais, les Sénateurs ont déjà affiché leur couleur. Ils s'en viennent faire un entraînement public avec des vétérans, puis un match intra-équipe à Gatineau le 21 septembre prochain au Centre Slush Poppy. Tu sais, ils veulent s'approcher de cette communauté-là. Puis il était grand temps, Sébastien, qu'on le fasse. Il était grand temps, puis chapeau à l'organisation des Sénateurs, parce que, tu sais, Michael Adlauer, là, c'est pas le premier qui a dit en point de presse lorsqu'il est arrivé avec les Sénateurs que, oh, on veut se rapprocher des Gatinois, puis tout ça. Non, c'est pas le premier à l'avoir dit, mais c'est le premier à l'avoir fait, par exemple. Et ça, honnêtement, là, je trouve vraiment que c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle pour l'organisation des Sénateurs. Puis je pense que cette année, il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui va vouloir suivre ce qui se passe à Ottawa. Puis je te parle de ce côté-ci de la finale.
Merveilleux. On suivra ça cette saison. Dans la LPHF, maintenant, les équipes ont maintenant dévoilé des noms. Hein. On les appellera plus seulement simplement par leur nom de ville. C'est le cas à Montréal.
Ouais. Ouais, exact. C'est le cas à Montréal, c'est le cas à Ottawa, c'est le cas pour les 6 équipes de la Ligue, mais ça, c'est mon bémol. Là, je veux pas paraître pessimiste, là, parce que moi, je trouve que la LPHF nous offre un très, très beau produit, un produit de qualité sur la glace. Ce que j'aime pas, par exemple, c'est que ça a pris un an pour arriver avec ça. Je regardais un peu lorsqu'il y a eu le dévoilement des équipes. Tu sais, l'équipe de Montréal, prenons l'équipe de Montréal, par exemple, qui va s'appeler les Victoires de Montréal. Moi, ça, là, beaucoup de difficultés avec ça. Parce que disons que Montréal connaît une année difficile, là. Le Victoire s'incline. Le Victoire vient de perdre un match. Tu sais, à un moment donné, là, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'on ait dans cette direction-là. Je comprends tout l'historique qu'on veut faire derrière ça, mais en même temps, je me suis dit, oh boy, le briefing s'est passé comment pour cette équipe-là? Même chose pour les autres équipes, Sébastien. Du côté d'Ottawa, là, honnêtement, là, si tu penses à l'historique au niveau du hockey dans la capitale fédérale, là, nomme-moi une place où on parle de charge. Tu sais, on les a appelés les Ottawa Charge. Je suis même pas capable de dire pourquoi. Mm-hmm. J'ai regardé le communiqué de presse, j'en ai pris note. On m'a dit que c'est parce qu'on veut offrir du hockey de haute voltige, parce que les partisans nous soulèvent et nous électrocutent. Honnêtement, là, ça, c'est bidon.
Il n'y aurait pas avoir un clin d'œil à l'histoire, un clin d'œil à quelque chose. Oui, oui.
Sébastien, ça a pris un an pour avoir ces noms d'équipe-là. Honnêtement, ça m'a... Je vais te le dire, je suis déçu, mais je suis pas... Tu sais, je veux dire, je mets pas la ligue... je mettrais pas la ligue sous tutelle, là, on s'entend.
Le spectacle va être aussi bon, les matchs vont être remplis, les partisans vont répondre à l'appel sûrement quand même, mais oui, il y a un bémol sur le choix qui a été...
Ça m'a frappé parce que je me suis dit, ça fait tellement longtemps qu'on avait hâte d'entendre ça, puis c'est la faute de la ligue, là, on a créé des attentes en attendant un an avant de nommer le nom de nos équipes. Si on a attendu un an pour ça, je trouve que l'accueil aurait pu être meilleur, parce que que tu regardes, ou en tout cas ce que moi j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, à travers les différentes chaînes de nouvelles, on est mitigé par rapport au nom des équipes, on comprend pas trop la signification. Je pense qu'il y aurait eu une façon de briefer un petit peu plus longtemps, mais bref, encore là, comme je dis, la LPHF offre un super beau produit. Maintenant, c'est de voir est-ce que c'est cette ligue-là, les gens vont être capables de s'approprier le nom des nouvelles équipes, ça sera à suivre.
Et sinon, rapidement, NFL, là, c'est parti là, pour la saison depuis quelques semaines.
Ouais, ça a commencé la semaine dernière, puis ça, c'était la grande messe des amateurs de football, parce qu'il y avait 10 matchs au pied carré, mon ami. Et ça se poursuit ce soir avec un affrontement entre les Bills et les Dolphins de Miami, du côté justement de Miami. Je vous parle de NFL parce que c'est ce qu'on va se parler beaucoup au courant des prochaines semaines, là, jusqu'au Super Bowl. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade-ci, il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, « Olivier, es-tu capable de prédire un peu quelle équipe tu vas au Super Bowl? » Puis j'ai dit, « Sais-tu quoi? » Non. Je suis pas capable de dire quelle équipe joue au Super Bowl parce que c'est impossible au football de dire quelle équipe va être au Super Bowl après le premier week-end d'activité. Il y a déjà des partisans qui s'enflamment, qui disent que les Chiefs de Kansas City sont repartis pour la gloire. Il y en a même qui ont dit que les Saints, avec la domination qu'ils ont eue contre les Giants de New York, sont une équipe à suivre cette saison. Écoutez, la NFL, c'est ça la beauté de ce sport-là. T'es à une blessure près de connaître la pire saison de ton histoire. T'es à une blessure près de justement rater des séries éliminatoires. Alors, assoyons-nous, profitons du bon football d'automne qui s'en vient, mais ça va être excitant et je crois que c'est une des grandes années de parité dans la NFL, c'est-à-dire que les équipes sont pas mal toutes compétitives. Il y en a pas beaucoup qui peuvent pas aspirer à participer aux séries éliminatoires. Ça va nous faire du très, très bon football à jaser au courant des prochaines semaines.
Merveilleux, Olivier Beauregard. Un grand merci d'être de retour dans l'équipe de chroniqueurs cette saison, puis à la semaine prochaine.
Merci, bye-bye.